Bon, on va commencer. On va être dans les temps, hein, parce que nos conférenciers ont des trains à prendre. Donc on va essayer d'être dans les temps. Donc je remercie Laurent Loison d'avoir accepté de venir chez nous pour nous parler des... Je cherche le titre, excusez-moi. C'est l'après-déjeuner. Les mécanismes de l'évolution... Voilà, les mécanismes de l'évolution des espèces. Petite histoire d'un long débat, 1859-1837. Vous avez reconnu, bien sûr, Darwin. Donc, Laurent Loison est agrégé de SVT. Il a fait un DEA d'épistémologie d'histoire des sciences à Paris 7 en 2004 et doctorant au Centre François Viette, Université de Nantes. Il y a pas mal de gens du Centre François Viette qui sont déjà venus ici parler d'histoire des sciences et des techniques. Donc, c'est un centre très, très dynamique. Et le directeur est Stéphane Tirard, qui est aussi un ami, qui est déjà venu chez nous. Et je disais à Laurent, en effet, que dans la génération... la vôtre, mais celle aussi de Stéphane Tirard, disons, dans les 50 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, de moins en moins de gens qui travaillent sur les sciences de la vie. Donc, d'un point de vue universitaire, c'est une, disons, l'histoire des sciences de la vie est une discipline qui tend à disparaître. Donc, il faut quand même se poser des questions. Il y a Pascal Duris qui tient le laboratoire épistémé à Bordeaux, mais aussi des sciences de la vie, bien entendu, à Paris. Bon, en province, on en fait aussi au Centre François Viette, mais c'est une discipline qui tend en effet à qui survit, hein, de toute façon très bien. Bon, et puis il y a des questions maintenant d'actualité qui se, comme vous le savez, à ce sujet, puisque on parle pas mal en ce moment du créationnisme, et on va faire d'ailleurs une journée d'études là-dessus l'année prochaine sous la direction scientifique de Pietro Corsi à l'espace Mendès France. Bon, donc ça c'est un autre programme, et je pense, Mario, que nous allons faire aussi une journée en direction des professeurs. Dans le cadre de l'UFM sur ce sujet. Hein. Voilà, donc, et j'ai oublié de dire que Laurent Loison est aussi secrétaire général des sociétés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés savantes, mais elles existent, hein, elles datent du 19e siècle, mais les sociétés savantes. C'est pas celle-là, elle est beaucoup plus jeune. Hein. Les sociétés savantes continuent d'exister et aussi de produire. Hein. Donc, il s'agit de la CHESV, qui est la société d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie, et nous avons le grand honneur cette année de les accueillir au mois de mars pour leur colloque et leur congrès qui aura pour thème l'évolution, justement le titre de notre petit journal. Donc vous êtes invités aussi à assister à ce congrès qui réunira des personnalités mondiales, hein, on peut le dire. Voilà, merci Laurent, vous avez la parole.
Bah, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, donc je vais évidemment vous parler de l'évolution des espèces et plus particulièrement du long débat, enfin surtout de l'intense débat qu'il y a eu sur la manière dont les espèces ont évolué. Donc ce débat a commencé avec la publication de l'œuvre du personnage qui est projeté actuellement, Charles Darwin, en 1859, et s'est apaisé à trouver un consensus scientifique à la fin des années 30 et au début des années 40. Alors, quel est l'intérêt de rentrer dans ce débat historique et scientifique très compliqué ? Ben, c'est un intérêt à plusieurs niveaux. Alors, pour les professeurs de biologie, l'intérêt est, j'espère, relativement évident. Sinon, je vais essayer de le démontrer pendant l'heure qui vient. C'est que, en fait, la plupart de nos élèves, quand ils rentrent au collège, quand ils rentrent au lycée, et malheureusement souvent quand ils sortent du lycée, en fait, ont en tête des processus évolutifs qui ne correspondent pas à la réalité scientifique actuelle, qui ne sont pas du tout des mécanismes darwiniens. Alors pour le dire rapidement, les élèves sont lamarckiens, et tout le but de l'enseignement de l'évolution au lycée devrait être de chasser cette idée de leur esprit et d'essayer de leur faire comprendre finalement le fonctionnement de l'évolution des espèces, qui est totalement contre-intuitif. Donc c'est un peu comme la relativité en physique, c'est pas quelque chose d'intuitif, et comme vu de l'extérieur ça a l'air assez simple. Ça marche ? Ah d'accord. À chaque génération, en fait, on a une sorte de génération spontanée de gens qui pensent avoir redécouvert la manière dont les espèces évoluent et pouvoir compléter ou rénover la théorie de l'évolution. Et ça, c'est valable même pour des biologistes qui font carrière en France et qui publient des livres qui sont parfois, bon, je citerai pas de nom, mais qui publient des livres d'une naïveté incroyable qui montrent qu'il y a une totale inculture en fait de cet aspect assez compliqué de la biologie. Donc ça, c'est pour les gens qui sont professeurs de biologie. Alors pour les autres, ben pour les autres, en fait, c'est une sorte d'autopsychanalyse. Ça va être mettre à l'épreuve, en fait, la manière dont on perçoit spontanément la façon dont les espèces évoluent et essayer de voir jusqu'à quel point, finalement, ça s'accorde avec la théorie scientifique actuelle et à quel moment est-ce qu'on dévie et est-ce qu'on retrouve les figures du passé qui ont animé ce vieux débat. Puisque, évidemment, toutes les tendances qui se sont montrées pendant ce débat, en fait, reflètent des tendances un peu spontanées qu'on a tendance à recréer au fur et à mesure de l'histoire. Donc, on peut retrouver des profils d'élèves à travers les différents protagonistes de ce débat. Et puis, enfin, il y a un intérêt peut-être politique, c'est que régulièrement aux États-Unis, le créationnisme renaît de ses cendres, et que dans sa dernière version, appelé Intelligent Design, mais en fait il reprend, contrairement à évidemment ce qu'il prétend, des thèses qui sont extrêmement anciennes et qui en fait sont une sorte de remodernisation mais extrêmement bricolée d'idées qui sont ancrées dans le 18e siècle ou dans le 19e siècle. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui ne seraient pas spécialistes évidemment de cette discipline. Alors, un petit mot d'abord sur la périodisation du débat, 1859-1937. Alors, en 1859, Darwin publie « L'origine des espèces ». Donc, c'est évidemment un livre totalement révolutionnaire dans l'histoire de la pensée occidentale. Ça dépasse de loin le cadre de la biologie. Mais ce qu'on comprend mal souvent a posteriori, c'est que en fait, l'idée vraiment révolutionnaire dans cet ouvrage, ce n'est pas l'idée que les espèces évoluent, parce que ça, finalement, c'est une idée qui est plus ancienne que Darwin. Alors, rien qu'en France, évidemment, il y a le nom de Lamarck qui fait figure de référence. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire chez Darwin, c'est plutôt le mécanisme qu'il propose pour l'évolution des espèces, c'est le mécanisme de sélection naturelle. Alors, mon intervention ne porte pas spécialement sur Darwin, mais évidemment, en guise d'introduction, je vais un petit peu rappeler comment cette théorie a été forgée. Alors, elle a mis longtemps à se forger, puisque en fait, Darwin, au début de sa vie, au début de sa carrière de naturaliste, va faire un long voyage de 5 ans d'exploration autour du monde. Il va partir en bateau faire le tour du monde. Il va surtout explorer l'Amérique du Sud. Le but officiel du voyage, c'est la cartographie de certaines régions d'Amérique du Sud. Et lui, en tant que naturaliste, va en profiter pour faire énormément d'observations géologiques et biologiques. Et le point central de ce voyage, ça a été l'exploration des îles Galapagos. Donc c'est un petit archipel au large de l'équateur, à peu près à 500 km des côtes. Ce sont des îles très récentes géologiquement, et Darwin étant d'abord un très bon géologue, il l'avait évidemment compris. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau de ces îles, qui sont très nombreuses, hein, plus d'une centaine, ben, on voit quasiment en temps réel, évidemment j'exagère un peu, un phénomène de spéciation à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on voit des espèces en train de se différencier, et elles sont tellement proches les unes des autres et aussi tellement proches des espèces continentales sud-américaines que, évidemment, à la vue de ces observations, l'idée que les espèces ont été créées séparément par un dieu bienveillant est considérablement malmenée. Donc ces observations pendant son voyage vont l'amener à réfléchir sur l'idée que les espèces peuvent éventuellement évoluer. Et puis à côté de cette marque empirique, donc de ces observations vraiment puissantes qu'il effectue pendant 5 années, donc c'est quand même un voyage très long, il a le temps d'être marqué par ça, même si évidemment il ne passe pas 5 ans au Galapagos, il y a deux ouvrages qui vont beaucoup influencer sa pensée. Alors le premier, c'est l'ouvrage qui fonde la géologie moderne, c'est Les principes de géologie de Charles Lyell, un autre anglais, qui est un peu plus âgé que Darwin. Et en fait, donc c'est un ouvrage en plusieurs volumes, et Darwin va se faire expédier les différents volumes au fur et à mesure de son périple. Mais en fait, la thèse qui est défendue par Charles Lyell dans ces différents volumes, c'est que l'état actuel du monde, géologiquement parlant, n'est pas la conséquence de catastrophes, c'est-à-dire que quand bien même on observe dans les paysages des structures qui ont l'air de résulter de forces absolument colossales comme une chaîne de montagnes, en fait, il est possible d'expliquer ces structures gigantesques, non pas en invoquant des causes gigantesques et proportionnée à la structure, mais simplement en disant que ben, les causes actuelles, ce que l'on voit dans la nature tous les jours, si l'on dispose d'un temps suffisamment long, sont capables à elles seules de produire des structures aussi énormes que des chaînes de montagnes. Donc ça, c'est le principe d'uniformitarisme et d'actualisme, cher aux géologues, et c'est l'aïeul qui lui donne sa forme moderne. Et Darwin va être extrêmement marqué par cette vision des choses, et évidemment, l'évolution, c'est l'uniformitarisme appliqué à la sphère du monde vivant, puisque la diversité et la complexité des êtres vivants, en fait, ne requièrent pas, en termes d'explication, des causes surnaturelles, à condition que la nature ait un temps suffisamment long pour réaliser ses productions. Donc ça, c'est le premier héritage théorique que Darwin assume et revendique et qui incontestablement a joué dans la genèse de ses idées. Alors le second, ben, c'est la lecture d'un livre plus ancien de Malthus, Le principe des populations. Donc Malthus, c'est un penseur de la fin du XVIIIe. Et en fait, dans ce livre, il montre que les populations humaines ben, s'autorégulent naturellement, tout simplement parce qu'elles croissent de manière géométrique, alors que les ressources à disposition ne peuvent croître que de manière arithmétique. Donc il vient très vite un moment où les ressources viennent à manquer, et où donc il y a une lutte pour ces ressources, et en général ça se traduit par une famine. Donc évidemment là on reconnaît déjà les germes de la théorie, de l'idée de lutte pour l'existence, qui est un prérequisit nécessaire à l'idée de sélection naturelle. Donc tout ça fait qu'à la fin des années 1830, il forge son idée de sélection naturelle. Alors évidemment, dans les tests, c'est beaucoup plus compliqué là, c'est en 5 minutes, mais bon, c'est pour donner simplement un jalon. Alors, fin des années 1830, il publie en 1859. Ben, qu'est-ce qui se passe pendant 20 ans? Ben, plusieurs raisons l'empêchent de publier. D'abord, il a énormément peur des réactions que son livre pourrait susciter, d'un point de vue théologique, mais aussi d'un point de vue scientifique. Et il a notamment été marqué par l'énorme débat qu'a provoqué en 1844 la publication d'un livre publié anonymement, Les vestiges de la création, donc par un compatriote de Darwin. Et il voit qu'il faut vraiment qu'il accumule des faits et des arguments avant de publier ses idées, parce que sinon il risque lui aussi de rencontrer de fortes oppositions. Donc ça c'est un point qui explique pourquoi il n'a rien publié pendant quasiment 20 ans. Et puis le deuxième, c'est qu'en fait, la théorie de la sélection naturelle, elle est extrêmement compliquée dans le détail. Contrairement à ce qu'on croit vu de l'extérieur, c'est une théorie absolument qui connaît des ramifications terribles, qui connaît des problèmes logiques très importants. Et donc en fait, pendant 20 ans, Darwin va travailler sur sa théorie, va l'améliorer d'un point de vue logique, en plus de recueillir des preuves empiriques en faveur de ses idées. Alors, en 1858, il reçoit une petite lettre d'un jeune naturaliste qui travaille en Malaisie, et qui lui dit que, joint à cette lettre, il lui montre un petit essai d'article, parce qu'il pense qu'il a eu une idée intéressante. Et en fait, l'idée intéressante en question, c'est l'idée de sélection naturelle. Donc évidemment, Darwin, là, il est... Il est paniqué un petit peu, et puis il demande à ses amis à qui il a fait part de ses idées, qu'est-ce qu'il doit faire, parce que lui, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dessus, il a quand même pas trop envie de se faire piquer la première place. Et donc finalement, il y a une publication conjointe cette année-là, donc de l'article de cet homme qui s'appelle Wallace, qui est anglais, Alfred Wallace, et de certains papiers de Darwin qui montrent que Darwin a eu cette idée déjà bien avant Wallace. Et donc l'année qui suit cette publication, eh bien Darwin rédige et ensuite publie son fameux ouvrage sur l'origine des espèces. Alors cet ouvrage, ben, il va ouvrir une nouvelle période. L'idée d'évolution en elle-même, elle va être très vite acceptée par la plupart des biologistes. Bon, à l'époque, on ne parle pas encore vraiment de biologistes, mais par la plupart des scientifiques qui travaillent dans le cadre de l'histoire naturelle, quasiment dans tous les pays occidentaux. Ça va se faire assez vite, et une dizaine d'années plus tard, on peut dire que le nouveau cadre de pensée de la biologie, des sciences du vivant, c'est l'évolution des espèces. C'est ça qui donne son sens au travail quotidien des scientifiques. Alors pour employer un gros mot, c'est ça le nouveau paradigme dans lequel tous ces scientifiques travaillent. Par contre, évidemment, ce qui va faire débat maintenant, c'est la façon dont ces espèces évoluent, c'est les mécanismes qui permettent à cette évolution d'avoir lieu au cours du temps. Donc Darwin, il impose l'idée d'évolution, mais il n'impose pas du tout l'idée de sélection naturelle. Et alors là où le débat se complique, c'est que comme c'est un mécanisme assez compliqué dans le détail, il y a plein de gens qui vont penser être darwiniens, alors qu'en fait, on remarque sans problème qu'ils ne sont pas du tout. Et l'exemple le plus frappant, c'est son contemporain Herbert Spencer, qui est philosophe, qui est le père du darwinisme social, donc en gros la sélection naturelle appliquée aux sociétés humaines. Et en fait, Spencer était lamarckien. Quand on lit ses ouvrages, il n'était pas du tout darwinien. Donc le débat est vraiment très confus. Alors, on va essayer de mettre un peu de clarté dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1859? Alors, dans un premier temps, évidemment, y a des gens qui, de façade, vont accepter la modernité, alors qu'en fait, ils se réfèrent à des schémas de pensée bien antérieurs. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça le temps des résurgences théologiques. En fait, beaucoup plus tard que la physique ou d'autres sciences, les sciences du vivant ont été liées à des projets théologiques. C'est-à-dire qu'on a très longtemps, jusque tard dans le 19e siècle, essayé de prouver l'existence de Dieu à l'aide de recherches dans les sciences du vivant. Et avant Darwin, évidemment, l'idée c'était que Dieu avait créé les espèces séparément, donc là le cadre est relativement simple à comprendre. Et en fait, après Darwin, ces gens-là vont, pour certains au moins, accepter l'idée d'évolution, à condition évidemment que le mécanisme qui préside à cette évolution ne soit pas un mécanisme totalement matérialiste, comme peut l'être la sélection naturelle. Donc ils vont lier l'évolution à des considérations théologiques. Alors, selon deux moyens essentiellement, le premier, l'ordre est quelconque, hein, ça aurait pu être l'inverse, le premier, c'est ce qu'on appelle l'unité formelle du vivant, et elle doit montrer l'existence d'un dessein. Alors, c'est ce qu'on appelle le plan d'organisation des êtres vivants. C'est des notions qui s'enseignent en seconde, hein, alors évidemment avec un autre projet que de montrer l'existence de Dieu. Alors, pour prendre l'exemple historiquement le plus marquant, peut-être, Richard Owen, donc biologiste anglais contemporain de Darwin, inventeur du mot dinosaure, grand spécialiste, un des premiers spécialistes des dinosaures au 19e siècle, donc là il pose fièrement à côté d'une papatte de dinosaure. Il est le père de la notion moderne d'homologie. Alors, pour les non-biologistes, une homologie, c'est une structure qui va se retrouver à l'identique ou quasiment à l'identique chez différentes espèces, alors qu'elle peut avoir des fonctions bien différentes. Alors, l'exemple typique, c'est le membre des vertébrés, puisqu'il peut servir de palette natatoire chez la baleine, il peut servir de membre pour courir chez les félins, il peut servir de membre préhensile chez les humains, chez les primates. Donc il peut avoir des fonctions très différentes, il peut servir de pelle chez la taupe, etc., etc., etc. Alors que la structure interne du membre, son anatomie, est quasiment identique chez toutes ces espèces. Donc ce genre de choses, structurellement proches ou identiques, mais fonctionnellement attachées à des choses très diverses, on appelle ça en biologie une homologie. Donc Owen forge tous ces termes-là. Et il est convaincu qu'en fait on peut étendre ces idées d'homologie très loin dans le monde vivant, et proposer l'existence d'un archétype. Donc l'archétype, c'est le premier modèle qui est sur cette planche-là, et à partir duquel, en fait, dériveraient les autres espèces de vertébrés. Donc évidemment, là, on travaille dans le cadre simplement des vertébrés. Bon, il y a des gens qui ont étendu ces idées-là au-delà du seul cadre des vertébrés, même à l'époque. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, un biologiste français un peu antérieur à Richard Owen, dit des choses à peu près équivalentes. Donc là, ben, l'existence de Dieu, elle est prouvée comment ? Ben, elle est prouvée par le fait que les êtres vivants sont formellement tous relativement très proches les uns des autres, et qu'en fait, la sélection naturelle, elle n'est pas pour grand-chose dans l'évolution des espèces. Alors, pour prendre une image qui est très populaire à l'époque, c'est la métaphore du polygone. Mais en fait, on peut déplacer un polygone sur un plan horizontal, donc comme c'est représenté ici, et la trajectoire que va avoir ce polygone sur ce plan horizontal, finalement, elle n'est pas tellement l'effet d'une impulsion externe. Évidemment, il faut pousser le polygone avec son doigt pour qu'il bouge. Donc ça, c'est la métaphore du rôle du milieu dans l'évolution des espèces. Le milieu peut jouer le rôle de stimulant, mais finalement, ce qui oriente préférentiellement l'évolution dans certaines directions, c'est la structure même interne des êtres vivants, et là en l'occurrence c'est la structure géométrique du polygone. Il ne va pouvoir rouler que d'une certaine façon sur la table étant donné sa forme géométrique. Donc dans les années 1860, il y a beaucoup de gens, surtout en Angleterre, qui pensent qu'en fait l'évolution, elle n'est pas guidée par l'adaptation au milieu, puisque ça, c'est une des conséquences de l'acceptation du mécanisme de sélection naturelle, c'est-à-dire que l'évolution est totalement contrainte par le milieu et donc dépend des variations du milieu. Là, pour ces gens-là, l'évolution, elle est beaucoup plus contrainte par la structure interne des êtres vivants, ce qui permet toujours, moyennant évidemment quelques... pas des escroqueries, mais bon, quelques tours de passe-passe un peu rhétoriques, de rattacher ça à l'idée d'un dieu, quel qu'il soit. Donc ça, c'est la première manière de remettre de la théologie dans la biologie, quand bien même on accepte l'idée d'évolution, donc simplement de nom, Richard Owen, on a vu, et puis George Jackson Mivart, donc c'est un des grands spécialistes de cette métaphore du polygone. Et c'est des gens qui vont s'opposer à Darwin de manière explicite, totalement explicite. Alors, deuxième façon de réintroduire Dieu dans l'évolution de la nature, c'est en fait en acceptant que l'adaptation soit un phénomène réel, c'est-à-dire que c'est bien le milieu qui imprime sa marque aux êtres vivants, mais les êtres vivants s'adaptent de manière active à leur environnement et de manière orientée, de manière téléologique. Donc ça, c'est ce qu'on a. On peut résumer ça sous la forme de la phrase suivante : l'adaptation fonctionnelle du vivant montre l'existence d'un dessein. Alors, deux exemples assez rapidement. Samuel Butler, donc encore un Britannique de la même époque, alors qui était surtout romancier, mais qui va jouer de son impact dans la société générale pour donner beaucoup de publicité à ses idées. Mais il ne faut pas croire que ce sont des choses qui sont restées confinées à l'Angleterre du 19e siècle. Et par exemple, en France, un grand biologiste, Pierre-Paul Grasset, que certainement les biologistes connaissent au moins de nom parce qu'il a écrit des traités de zoologie qui sont la bible des gens qui passent les concours de l'enseignement. Pierre-Paul Grasset était proche d'une conception, de ce genre de conception-là de l'évolution du monde vivant. Il n'était pas satisfait par le néo-darwinisme et il pensait que les êtres vivants en eux-mêmes avaient une certaine faculté intrinsèque d'adaptation. Alors évidemment, le problème, c'est que cette faculté intrinsèque, elle est complètement inexplicable, sauf si vous acceptez que c'est Dieu qui a donné aux êtres vivants cette faculté intrinsèque d'adaptation. Donc, encore une fois, on peut raccrocher ça à la théologie. Donc voilà pour ces résurgences théologiques, je ne vais pas en parler trop longtemps. Alors, très vite, elles se sont néanmoins éteintes, hein, du moins dans les milieux réellement scientifiques. À la fin du 19e siècle, elles sont quasiment éteintes. Alors, qu'est-ce qui prend la place de tout ça dans le débat ? Alors, ce qui va vraiment lancer le débat, en fait, c'est August Weismann, un biologiste allemand, donc toujours du 19e siècle, évidemment. Parce que Darwin, il avait une pensée relativement éclectique sur ce point-là. Pour Darwin, la sélection naturelle était le moteur majeur de l'évolution, mais n'était pas le moteur unique de l'évolution. Il pensait que l'hérédité des caractères acquis était un phénomène réel. Et donc, dans ses différentes publications, et au fur et à mesure qu'il réécrit l'origine des espèces, puisqu'il y aura 6 éditions de son vivant, qui à chaque fois sont des réécritures, il laisse finalement une place de plus en plus grande à l'hérédité des caractères acquis. Donc très vite, hein, l'hérédité des caractères acquis, c'est quoi ? Ben, c'est simplement le fait qu'un organisme, s'il s'adapte au cours de sa vie à un environnement donné, est capable de léguer à sa descendance au moins une partie de cette adaptation. Donc on parlera d'hérédité des caractères acquis à ce moment-là. Donc Weismann, lui, il va prendre le parti inverse de cette idée et il va décréter que comme les soi-disant preuves d'hérédité des caractères acquis sont très insuffisantes quand on les soumet à une critique assez serrée, ben il va décider qu'il est possible d'expliquer la totalité de l'évolution en se passant de l'hérédité des caractères acquis et donc en utilisant simplement le principe de sélection naturelle. Alors, cette idée-là, en fait, elle est sous-tendue par sa vision des phénomènes héréditaires. Pour Weismann, l'hérédité s'explique exclusivement par la transmission d'une substance qu'il appelle le plasma germinatif, qui passe des parents aux enfants de manière inchangée, parce qu'il est isolé du reste du corps, qu'il appelle le soma. Et ça, c'est resté dans la terminologie biologique, puisqu'on distingue toujours actuellement les cellules germinales, donc les cellules qui servent à la reproduction, les spermatozoïdes chez l'homme, par exemple, des cellules somatiques, le corps de l'être vivant dans sa totalité, donc cellules musculaires, cellules nerveuses, cellules épidermiques, etc. Donc là, ce petit schéma en dessous d'un dessin de Weissmann montre comment le germen, c'est-à-dire le plasma germinatif, transite d'une génération à l'autre de manière relativement stable, et qu'à chaque génération, il produit un nouveau soma. Donc dans ce schéma théorique-là, les modifications du soma sont sans répercussion aucune sur la forme du plasma germinatif. Et donc, par principe, mais évidemment, il ne l'a pas prouvé, c'est très difficile de prouver la non-existence d'un phénomène en science. Donc, par principe, sa théorie exclut la possibilité d'une hérédité des caractères acquis. Et du coup, il va se faire l'avocat le plus fervent de la sélection naturelle. En fait, Weissmann fonde ce qu'on appelle la posture néo-darwinienne, qui se distingue du darwinisme, la théorie de Darwin, dans le sens où elle n'accepte que la sélection naturelle comme mécanisme de l'évolution des espèces. Alors évidemment, à l'époque, ça va considérablement choquer le reste de la communauté scientifique, et ça va provoquer un véritable tremblement de terre. Et donc, il va y avoir des réponses à ce weissmannisme, à ce néo-darwinisme. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 1880, donc Weissmann publie l'essentiel de ses articles importants entre 1883 et 1888. Pour la plupart, ils sont très vite traduits, même en français, ce qui n'est pas toujours évident, parce que dès 1892, on a une traduction quasiment complète des articles importants de Weissmann sur l'hérédité. Donc les biologistes vont être choqués par cette manière, selon eux, outrancière d'expliquer la totalité de l'évolution par la sélection naturelle. Et donc, en fait, des modes de pensée qui jusqu'alors étaient quasiment tacites, hein, on n'explicitait pas tellement finalement la manière dont les espèces évoluaient, ben, ces modes de pensée anti-Weissmanniens vont cristalliser justement en réponse à ce que dit Weissmann. Alors, une de ces manières de voir l'évolution, ben, c'est ce qu'on appelait le néo-lamarckisme. Donc, c'est une manière de moderniser la vision de Lamarck, qu'avait Lamarck de l'évolution. Alors, évidemment, une modernisation, c'est toujours une trahison. Et dans certains cas, la trahison, elle va être terrible. Et en fait, beaucoup d'idées néo-lamarckiennes ont un rapport extrêmement distant avec les idées de Lamarck. Bon, mais là, on rentre dans des choses extrêmement compliquées, donc je ne vais pas m'attarder sur cette trahison. Mais disons que le terme néo-lamarckien est absolument inapproprié. Il faudrait certainement lui en substituer un autre. Alors, si on prend le cas français, qu'est-ce qui se passe en France quand Weissmann dit que la totalité de l'évolution repose sur le principe de sélection naturelle ? Ben, y a une levée de bouclier générale. Alors, la France, bizarrement, bien que ce soit la patrie de Lamarck, va être quasiment la dernière nation européenne à accepter l'idée d'évolution. Alors que dans la plupart des grands pays scientifiques, dans les années 1860, la chose est entendue. En France, la chose sera entendue dans les toutes dernières années du 19e siècle seulement. Et en fait, ce n'est qu'en 1888 qu'est créée à la Sorbonne une chaire d'évolution. Donc de ce point de vue-là, la France se retarde énormément, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Alors, pour les biologistes français de l'époque, donc j'ai mis quelques noms, bon, c'est sans beaucoup d'importance, alors peut-être qu'il y en a un que vous connaissez, c'est Gaston Bonnier, encore une fois, parce qu'il a légué quelque chose à la biologie actuelle, c'est la flore de France. C'est une petite flore portative sur laquelle chaque étudiant qui fait des études de biologie souffre pendant quelques années, parce que c'est l'objet qu'il doit savoir utiliser pour faire des déterminations lors des examens. Alors, effectivement, à la fin du 19e siècle, c'était certainement un outil très pratique et d'une pédagogie incroyable pour l'époque, mais pour un étudiant du début du 21e siècle, c'est un truc absolument imbitable. Et moi, je sais que j'en garde de très mauvais souvenirs de cette flore de France. Donc là, vous avez différents noms. Alors, ce sont des biologistes qui vont étudier la vie du côté de l'adaptation. Parce qu'en fait, à la fin du 19e siècle, sont créés des laboratoires de biologie marine un peu partout en France, surtout, en Europe en général, mais en France particulièrement. Le plus célèbre, c'est Roscoff, en Bretagne. Et les invertébrés que l'on connaissait très mal, hein, puisqu'en fait Lamarck invente le terme tout à la fin du 18e siècle, donc c'est un monde absolument pas connu avant le 19e siècle pour les biologistes, ben, les invertébrés montrent des formes absolument incroyables d'adaptation, notamment les invertébrés marins parasites. Alors là, je vous ai mis un dessin donc d'un de ces articles publiés à la fin du 19e siècle. Alors, ces animaux un petit peu étranges dont on a représenté différents spécimens sont en fait des crustacés. Évidemment, on ne reconnaît pas du tout une crevette ou un crabe ou encore moins une langouste, mais ce sont des crustacés parasites qu'on appelle des bopériens. Et en fait, ils montrent à quel point le mode de vie des organismes peut retentir sur leur structure au point de les rendre complètement méconnaissables, même aux zoologistes le plus averti. Donc ce qui choque ces biologistes français, c'est l'adaptation incroyable des organismes à leur milieu. Et pour eux, il est impensable que cette adaptation résulte du processus de sélection naturelle. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'est la sélection naturelle est très mal compris à l'époque, et encore actuellement par beaucoup de gens. La sélection naturelle dirige la variation biologique. Mais ça ne veut absolument pas dire que la sélection naturelle oriente la mutation des individus. Et du coup, parce qu'elle ne peut pas évidemment orienter la mutation individuelle des individus, y a des gens qui pensent qu'à ce moment-là, l'adaptation apparaît complètement formée, et du coup, évidemment, le seul facteur qui peut expliquer son apparition, c'est le hasard, si on est dans cette vision simplifiée et fausse du mécanisme de sélection naturelle. Et admettre que le hasard a pu produire des adaptations aussi complexes, c'est une idée qui apparaît comme totalement anti-scientifique. Et à juste raison, évidemment, le hasard n'a pas pu, ne peut pas expliquer l'apparition d'adaptations aussi fines et compliquées. Mais cette critique, en fait, montre simplement l'incompréhension de ce qu'est le mécanisme de sélection naturelle et ne remet pas du tout en cause la possibilité d'une explication darwinienne de ce genre de structure. Donc j'insiste particulièrement sur ce point parce qu'il est très mal compris encore actuellement. La sélection naturelle, elle guide le changement évolutif parce que tout simplement, elle postule que les variations des organismes sont infinitésimales. À ce moment-là, si elles sont si petites, elles sont cumulées simplement parce que le phénomène de sélection naturelle, justement, les additionne les unes aux autres jusqu'à produire une adaptation totale, enfin totale, au moins optimale dans un certain milieu. Et c'est ça qu'il faut entendre par sélection naturelle. Évidemment, les structures n'apparaissent pas telles quelles toutes formées et ne sont pas ensuite simplement conservées par la sélection naturelle. La sélection naturelle est véritablement créatrice. Mais ça, c'est un point compliqué à comprendre et qui n'a pas été compris par la biologie française. Alors, deuxième chose, c'est que la biologie française, à la fin du 19e siècle, elle est marquée par l'empreinte de Claude Bernard et de la physiologie expérimentale. Et donc, en fait, on pense qu'on peut mettre en évidence la manière dont les espèces évoluent par l'expérimentation en laboratoire. C'est la photographie qui se trouve en dessous. Donc le vieux monsieur avec la moustache, c'est justement Gaston Bonnier. Ça, c'est son laboratoire de biologie végétale à Fontainebleau, rattaché à la Sorbonne. Et puis toutes les autres personnes, ce sont ses élèves. Et puis on imagine derrière peut-être la famille, ou bon, peu importe. En tout cas, on voit bien avec cette photographie que ces gens-là espéraient, par l'étude expérimentale physiologique classique, mettre à jour l'évolution des espèces. Or, c'est pas du tout possible, tout simplement parce que l'évolution des espèces n'est pas un processus qui peut se contenter d'une explication physiologique. En fait, les organismes vivants, et ça c'est particulièrement dur à comprendre pour des physiciens, les organismes vivants sont des objets qui ne dépendent pas que des lois actuelles, que du jeu actuel des lois physiques. Évidemment, ils ne contreviennent pas aux lois de la physique. Mais simplement, ce sont des objets qui ont une histoire très très longue, et cette histoire a permis de canaliser le jeu des lois de la physique dans un certain sens, et donc de produire des choses qui sont totalement aberrantes du point de vue physique. Et en fait, les biologistes français ont essayé d'étudier les êtres vivants simplement dans leur actualité, et de ce fait, ils sont passés totalement à côté de la dimension historique du processus évolutif. Alors là, c'est pareil, ça demanderait des heures et des heures d'explications. Donc je fais que le signaler, si après il y a des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Alors, en Amérique, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'à peu près équivalent vu de loin. Néanmoins, vu de près, ça diffère sensiblement de l'école française. Alors, dans les années 1860, comme l'idée d'évolution s'impose, en fait, il y a de plus en plus de travaux qui vont porter directement sur l'évolution. Et les travaux les plus importants pendant cette période sont des travaux qu'on appelle des travaux phylogénétiques. On essaye de recréer l'arbre du vivant, c'est-à-dire les liens généalogiques entre les espèces, tels qu'ils sont réellement. Alors le problème, c'est que le registre fossile est extrêmement pauvre. Il y a des trous incroyables dans les fossiles qu'on peut ressortir. Et donc les fossiles ne permettent pas, en général, d'avoir une bonne vision généalogique de cet arbre du vivant. Et du coup, on va croire que l'on peut trouver un palliatif à ce manque fossile parce qu'on va penser pendant très longtemps, et certains encore actuellement, que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant le développement embryonnaire d'un organisme, en fait, les différents stades du développement sont les jalons que ses ancêtres ont traversé durant l'évolution. Ça veut dire ça, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Alors là, vous avez une des fameuses planches de Haeckel, biologiste allemand de cette époque, qui popularise cette idée-là à partir de 1866. Donc vous avez de gauche à droite différents développements embryonnaires de différents vertébrés. Donc vous avez un poisson complètement à gauche, et puis vous avez un humain, donc mensch, complètement à droite. Et en fait, il y a une étonnante proximité entre le développement embryonnaire de ces différentes espèces. Donc cette idée, elle va connaître un essor absolument incroyable, et elle va structurer une partie des recherches en biologie quasiment jusqu'à l'essor de la génétique moderne, c'est-à-dire pendant à peu près une petite cinquantaine d'années, jusque dans les années 1900-1910. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse ? Ben, ça veut dire simplement que un organisme vivant, admettons qu'il soit capable de s'adapter à un environnement un peu fluctuant, donc il va, au moment où il est adulte, développer de nouvelles structures, ou au moins de nouvelles ébauches de structures, et en fait, il faut après que ces ébauches de structures, ben, elles soient en quelque sorte retranscrites dans le développement de ses descendants. Donc ça demande quoi ? Ben, ça demande, donc vous avez un graphique qui vous montre... Donc la phylogénie, c'est la flèche diagonale. L'ontogénèse des organismes, c'est la flèche horizontale. Et puis vous avez différentes espèces au fur et à mesure du temps. Ça, c'est l'axe vertical. Donc si l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, ça veut dire que, évidemment, comme la phylogénèse est quelque chose de très ancien, parce que même si à l'époque on ne pensait pas que la vie avait pu évoluer pendant 3 milliards 800 millions d'années, on pensait néanmoins que cette évolution se comptait en centaines de millions d'années. Il faut donc que l'ontogénèse des organismes descendants, puisqu'évidemment elle ne peut pas être allongée à l'infini, hein, vous pouvez pas, si vous êtes le descendant d'une lignée qui a 500 millions d'années, ben, votre développement à vous, il ne peut pas prendre 500 millions d'années. Donc il faut raccourcir les étapes du développement. Donc il y a différents biologistes qui ont proposé que ben, soit il y avait certaines étapes qui simplement étaient éliminées dans le développement, donc ça c'est plutôt le schéma de droite, et puis d'autres spécialistes qui ont proposé qu'en fait non, toutes les étapes étaient conservées, mais simplement elles étaient extrêmement raccourcies. Alors les gens qui proposent ça sont surtout des paléontologues américains, et donc c'est une autre forme de lamarckisme, mais on voit bien à quel point ça ne doit rien à la marque, ce genre d'idée, et qu'en fait, la réappropriation du nom, ben, c'est simplement pour s'opposer à Darwin et à la sélection naturelle. Mais en fait, on trahit complètement les idées de la marque. Alors, aux États-Unis, la personne la plus connue, c'est Kopp. Donc, vous avez la petite photo. C'est un paléontologue. Alors, il est très connu, bon, surtout aux États-Unis, parce qu'il s'est livré une bataille avec un autre paléontologiste de l'époque, que l'on qualifie de course aux dinosaures, puisque les États-Unis sont un territoire très fertile en fossiles de dinosaures. Et en fait, ces deux paléontologues vont chacun de son côté essayer de mettre à jour un maximum de fossiles pour avoir simplement le plus de pouvoir possible en paléontologie. Donc à côté, vous avez un dessin de certaines de ces reconstitutions. Alors, un autre paléontologiste américain de l'époque, c'est Alpheus Hayat. Et là, en fait, sur cette photographie, il montre la manière dont il a reconstruit la phylogénèse des planorbes. Alors bon, les planorbes, ce sont des petits gastéropodes, donc, si vous voulez, des escargots. Et en fait, sur cette photographie, il y a 4 séries. Donc vous en avez une complètement à gauche, donc qui part d'éléments très simples, et on voit que l'évolution va dans un sens croissant au fur et à mesure qu'on monte sur la photographie. Vous en avez une deuxième et une troisième à peu près dans le même genre. Et puis, en fait, Alpheus Hayat, il va penser que les espèces sont en elles-mêmes capables de vieillir et de s'éteindre naturellement. Et en fait, c'est ce qu'illustre la dernière lignée, qui en fait se ramifie en 3 branches vers la fin, puisque là, contrairement à ce qui se passe à gauche, on voit que les coquilles des escargots sont de plus en plus petites et de plus en plus rudimentaires. Donc pour lui, en fait, les espèces entraient à la fin de leur évolution. Oula. pardon, dans un stade de sénescence des espèces, de sénilité. Alors, toutes ces idées, on le constate, elles sont moins centrées par rapport à ce qui s'est passé en France sur l'idée d'adaptation. Elles sont de nouveau assez centrées sur l'idée que les espèces ont quelque part en elles-mêmes une certaine faculté d'évolution. Et donc, à nouveau, cette façon d'expliquer l'évolution des espèces, elle va être rattachée à des considérations théologiques. Et dans sa forme la plus extrémiste, cette vision de l'évolution va s'appeler l'orthogenèse. Ortho, évidemment, ça veut dire tout droit, donc c'est la genèse d'espèces au travers du temps de manière rectiligne. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser que l'évolution se produit toujours dans le même sens. Et évidemment, sans aucune avec très peu d'influence du milieu et sans aucun égard avec ce qu'on appelle l'adaptation. Alors pourquoi l'orthogenèse va connaître un tel succès donc à la suite de ce débat entre Weismann et néo-lamarckien, donc là on est plutôt dans les années 1900-1910, ben c'est simplement parce que du coup on a l'impression qu'on peut mettre à jour l'idée d'une loi de l'évolution. Et évidemment les biologistes, ils ont toujours été fascinés par la physique, et l'idée qu'on puisse mettre à jour des lois de la nature, c'est finalement le terme le plus haut de la scientificité qu'on peut espérer atteindre en tant que savant. Et ils sont peinés de voir qu'en biologie, ben, on arrive à mettre en place aucune loi qui soit réellement une loi objective et universelle de la nature. Donc là, ils espéraient avoir trouvé quelque chose. Alors, ben, différents exemples qui vont les amener à penser ça. Ben, par exemple, le tigre à dents de sabre. On a du mal à comprendre comment l'adaptation au milieu peut entraîner la croissance des dents jusqu'à un point aussi important. Et donc, en fait, il y a pas mal de paléontologues français, dont Charles de Perret, qui vont penser que l'évolution de ces dents, en fait, elle est liée à quelque chose d'interne aux êtres vivants, et que cette évolution, une fois qu'elle a démarré, elle ne peut plus vraiment s'arrêter, quitte à ce que l'espèce disparaisse. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient non viable. Donc à côté de cet exemple du tigre à dents de sabre, l'autre exemple qui fait référence, c'est ce qu'on a appelé l'élan d'Irlande, donc c'est l'animal qui est juste en dessous, qui a vu une croissance totalement démesurée de ses bois, et à l'époque, on pensait que cette croissance était orthogénétique, et que finalement, c'est ce qui avait conduit à sa disparition, puisque les bois étant tellement grands, ben, il n'arrivait plus à survivre dans un environnement forestier, il n'arrêtait pas de se prendre des branches, etc. Donc c'était devenu complètement contre-adaptatif. Il y a beaucoup d'élèves qui sont orthogénéticiens sans le savoir, et il y a beaucoup de scientifiques actuels, notamment les gens qui travaillent sur le développement embryonnaire, qui sont amenés finalement à replonger dans ce passé-là et à proposer de nouveau, mais on voit bien que c'est une vieille idée qui est simplement réactualisée, des idées orthogénéticiennes. Alors c'est resté dans les programmes, hein, puisque pour les gens qui enseignent les SVT en terminale, on parle de la lignée humaine. Donc ça, le terme de lignée, il est marqué d'un poids historique fort, puisque évidemment ça date de cette période-là. Alors à côté de la lignée humaine, dont d'ailleurs, ça c'est absolument incroyable dans les programmes, puisque la lignée humaine, elle est censée être buissonnante dans les programmes. Donc on a du mal à comprendre comment une lignée peut tout d'un coup devenir buissonnante. Donc on voit bien qu'il y a des choses hétéroclites qui sont assemblées de manière pas tellement rationnelle et cohérente, parce que ce sont des vestiges de l'histoire, tout simplement. À côté de la lignée humaine, le cas hyper classique, c'est la fameuse lignée des équidés, où on a l'impression qu'au fur et à mesure du tertiaire, c'est-à-dire entre 65 millions d'années et actuellement, eh bien, les chevaux ont évolué vers des tailles plus grandes, vers une réduction du nombre de doigts, vers une spécialisation des dents à l'herbivorie, etc., etc., etc. Alors en fait, il s'agit simplement d'un artefact rétrospectif. Hein. Les chevaux sont les derniers représentants d'un groupe d'êtres vivants qui n'a pas eu de succès évolutif. Donc il reste quelques rares spécimens et du coup on a l'impression que ça forme une lignée, mais en fait c'est simplement un buisson qui évolutivement s'est avéré être un cul-de-sac. Donc il reste plus qu'une branche sur ce buisson et donc on a l'impression que c'est une lignée. Mais évidemment les chevaux n'ont pas intrinsèquement évolué vers une augmentation de taille, etc., etc., etc. Donc il faut y faire très attention parce que dans des ouvrages de vulgarisation ou même dans des manuels universitaires, alors on parle plus tellement des chevaux, on a l'impression qu'on a trouvé un meilleur exemple en parlant des titanotères, mais évidemment le biais rétrospectif est tout aussi important. Alors, dernier avatar dans ce débat. Jusqu'à présent, toutes les théories de l'évolution qui ont été proposées, donc entre 1859 et donc le début du XXe siècle, sont toutes des théories de l'évolution gradualiste. Alors ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'on pense que la variation, elle est très légère et qu'il faut un temps très long pour que le changement soit réellement perceptible. Donc on retrouve en fait à différents niveaux l'influence de Charles Lyell et de son uniformitarisme. Alors évidemment, le problème de ce genre de théorie gradualiste, ben, c'est que expérimentalement parlant, c'est pas bien pour un scientifique. Parce que le scientifique, lui, il a une carrière qui va durer 40, maximum 50 ans. Et s'il ne peut rien mettre en évidence expérimentalement pendant 50 ans, ben, évidemment, c'est un sujet qui ne va pas tellement l'intéresser. C'est pour ça que l'orthogénèse, par exemple, elle a surtout été supportée par des paléontologues, parce que eux, ce ne sont pas des scientifiques de laboratoire. Alors, les choses vont changer aux alentours de 1900, au moins pour certains scientifiques, avec l'idée que les êtres vivants, finalement, ils peuvent évoluer beaucoup plus vite. Alors, c'était une idée intéressante à l'époque, pour une autre raison aussi, donc en plus de cet aspect expérimental qui tout d'un coup devenait possible, c'est qu'on pensait que la Terre était beaucoup plus récente que ce qu'on pense actuellement. Donc actuellement, l'âge que l'on obtient avec des datations radiochronologiques, c'est 4,56 milliards d'années. Et on pense que l'évolution est possible, disons que l'émergence de la vie sur cette Terre-là est possible à partir de 4 milliards d'années, donc ce qui laisse un temps relativement long pour que l'évolution se déroule. Mais à l'époque, évidemment, la radioactivité, donc je parle surtout du 19e siècle, hein, la radioactivité n'est pas un processus connu. Et Lord Kelvin, en fait, pense que la Terre ne peut pas être âgée de beaucoup plus que 500-600 millions d'années. Donc il fait des études de refroidissement. Bon, ça, ce sont des choses très anciennes. Hein. Buffon déjà faisait ça au XVIIIe siècle, dans ses forges. Il chauffait des boulets à blanc. Alors, le problème, c'est qu'on n'avait pas de thermomètre très fiable à l'époque, donc on utilisait des mains de jeunes filles, parce que ça, c'est très sensible à la chaleur. Et les jeunes filles étaient ravies de prêter leur corps à la science. Et donc, il lui demandait de toucher les boulets, et quand le boulet ne les brûlait plus, ben, il avait une mesure évidemment assez qualitative, mais il avait quand même une mesure. Et donc, en rapportant la taille du boulet à la taille de la Terre, il en déduisait que la Terre était plus âgée évidemment que les 6000 ans bibliques, mais sans arriver jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Donc Thomson, évidemment, c'est pas tout à fait le même procédé de mesure, mais c'est la même idée, et donc il trouve un âge de quelques centaines de millions d'années, ce qui pose un problème effectivement pour l'évolution. Si elle est lente et graduelle, quelques centaines de millions d'années, ça peut ne pas suffire. Donc ça posait un problème aux biologistes. Donc ils vont penser que De Vries va leur permettre d'éviter cet écueil parce qu'il remet en cause ce gradualisme. Alors, De Vries est un botaniste hollandais, qui va s'intéresser particulièrement à un moment de sa carrière à une plante qu'on appelle le nagre. Alors, jeu du hasard, son nom scientifique c'est Œnothera lamarckiana. Donc elle a été baptisée du nom de Lamarck. Et en fait, il va observer donc dans des expériences de culture que cette plante, tout d'un coup, c'est-à-dire en une seule génération, elle peut donner des plantes qui diffèrent sensiblement de la plante mère, et qui ne sont pas des monstruosités dans le sens où après, la nouvelle structure de la plante, elle va rester stable au fur et à mesure des générations. Donc le dessin du centre, c'est trois sous-espèces différentes de cet nagre. Et à droite, vous avez un arbre généalogique qui reconstitue, selon De Vries, la manière dont ces plantes sont nées les unes des autres. Alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le phénomène de spéciation, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle espèce, il est ponctuel. Il n'est pas du tout graduel, c'est-à-dire qu'il s'établit même en une seule génération. C'est la forme la plus radicale de ponctualisme qu'on puisse imaginer. Et puis, si vous regardez bien l'arbre, vous considérez que la naissance d'espèces, elle se fait à des moments bien précis. Il y a des nœuds dans cet arbre. Donc en fait, il va penser que les espèces sont intrinsèquement susceptibles de rentrer dans des phases de mutabilité, et que dès qu'elles rentrent dans ces phases, en une génération, elles peuvent en produire une autre, ou une troisième, ou une quatrième, etc. Et que c'est certainement surtout comme ça que se fait l'évolution des espèces. Alors évidemment, ce qui va apporter du poids à ces théories, c'est maintenant on rentre vraiment dans l'expérimentation in situ, et ça le scientifique il aime bien pouvoir avoir un support matériel à ces idées. Par contre, le problème, c'est qu'avec cette manière d'expliquer l'évolution, bah, en fait, vous êtes absolument incapable d'expliquer l'adaptation des êtres vivants, puisque là, vous revenez dans l'idée que j'ai développée tout à l'heure. Comment expliquer qu'en une seule génération, bah, tout d'un coup, on ait une espèce qui soit entièrement adaptée à éventuellement un nouvel environnement. Alors, De Vries, lui, répondait à ce genre de critique qu'en fait, la plupart des caractères des êtres vivants ne sont pas des caractères adaptatifs, mais des caractères ornementaux. Alors évidemment, c'est particulièrement le cas chez les plantes. Ça l'est beaucoup moins chez les animaux. Donc là, on a, comme pour les paléontologues, un biais qui vient du matériel d'étude et qui a des retentissements jusqu'à la forme théorique que proposent ces scientifiques. Alors, j'en arrive tout doucement à la conclusion. Sortir de la crise. Donc en gros, des années 1860 aux années 1920, chaque discipline, chaque communauté nationale presque, a sa manière d'expliquer l'évolution des espèces. Donc ce que je viens de donner, ce sont des grandes lignes. Après, il y a des sous-ramifications, des sous-divisions. Et on peut presque dire que l'évolution, la manière d'expliquer l'évolution dépend du scientifique que vous interrogez. Alors comment sortir de la crise ? En fait, on est sorti de la crise d'abord en empirant la crise. Dans les années 1900-1910 jusqu'à, on va dire, 1915, il y a fondation de la génétique mendélienne. Alors Mendel, ses travaux datent des années 1860, mais il va être complètement oublié pendant une trentaine d'années, avant d'être exhumé, entre autres justement par Hugo de Vries, qui a été à un moment donné de sa carrière généticien. Le problème, c'est que la génétique mendélienne, elle est complètement incompatible avec les présupposés de la sélection naturelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le généticien, et surtout évidemment au début de cette science, puisque une science ne peut émerger qu'avec des cas relativement clairs à ses débuts, donc au début de la génétique, on pensait que les caractères d'un organisme, ce qu'on appelle son phénotype, variaient sur le mode du tout ou rien. Varier de manière discontinue et varier dans de grandes proportions. C'est comme ça que la génétique a pu trouver une assise empirique au début des années 1900. C'est parce que les gens, en étudiant des caractères justement bien caractérisables, qu'on pouvait délimiter facilement, ont mis en évidence que ces caractères se transmettaient identiques à eux-mêmes et tels quels au fur et à mesure des générations, qu'il n'y avait pas de mélange des hérédités. Parce que spontanément, par exemple, si un homme noir et une femme blanche font un enfant, évidemment, ils vont avoir des enfants métis avec une couleur de peau intermédiaire, et on pensait que l'hérédité fonctionnait de cette manière-là, c'est-à-dire par une sorte de mélange. Et en fait, en choisissant des spécimens bien particuliers, on arrive à montrer qu'au moins dans certains cas, les caractères ne se mélangent pas et se retrouvent tels quels dans les générations ultérieures. Alors, les exemples classiques, ce sont des plantes, par exemple, vous prenez une plante à fleurs rouges, une plante à fleurs blanches, de la même espèce évidemment, vous les faites se reproduire entre elles, et à la première génération après cette reproduction, vous n'avez pas, du moins dans les cas qu'ils présentent, de plantes à fleurs roses, mais vous avez souvent que des plantes à fleurs blanches ou que des plantes à fleurs rouges, et dans la génération suivante, vous obtenez trois quarts de plantes à fleurs blanches et un quart de plantes à fleurs rouges, ou l'inverse, ça dépend du caractère qui est dominant et du caractère qui est récessif. Donc ça permettait de penser que finalement l'hérédité ne fonctionnait pas par mélange, mais du coup on avait étudié des caractères qui étaient bien délimitables et qui ne variaient pas, absolument pas, de manière infinitésimale. Or la sélection naturelle, et ça on ne le rappellera jamais assez, elle ne fonctionne vraiment, elle n'a un rôle à jouer dans l'évolution que si la variation est légère. Donc les premiers mendéliens postule des variations phénotypiques de grande ampleur, et ça, c'est rigoureusement incompatible avec la sélection naturelle. Du coup, en fait, les premiers mendéliens vont expliquer l'évolution, comme Hugo de Vries, par des mutations, par des changements importants au niveau des facteurs héréditaires qu'on appelle gènes à partir de cette époque. Donc là, on est très loin d'une solution à cette crise. Alors, ensuite, ce qui va se passer est très compliqué. Donc là, j'en donne un très bref résumé, forcément complètement insuffisant. Ensuite, les mathématiciens vont s'emparer de la chose. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que ça va très vite être des mathématiques assez complexes. Et en fait, un des personnages les plus importants dans cette histoire, c'est Fisher, donc un mathématicien anglais, qui va montrer que la sélection naturelle, elle est compatible avec le mendélisme, avec la génétique moderne, si en fait vous considérez un nombre grand de gènes. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous considérez qu'un gène détermine un caractère, donc ça c'est la manière la plus simpliste de définir la génétique, en fait, si vous délimitez une centaine de caractères phénotypiques, ça veut dire qu'il y a une centaine de gènes. Si chaque gène peut varier sur un mode discontinu, ben, morphologiquement parlant, les individus ne peuvent pas varier de manière infinitésimale. Par contre, si vous postulez que le nombre de gènes est grand, et si vous postulez que les caractères ont un déterminisme multigénique, à ce moment-là, même si l'hérédité fonctionne de manière discontinue, la morphologie des êtres vivants va varier de manière continue. Et une variation continue, c'est exactement ce dont a besoin la sélection naturelle pour être le facteur prépondérant de l'évolution des espèces. Donc Fisher, en disant cela, ben, en fait, il va permettre la réconciliation entre la génétique classique et l'hypothèse de la sélection naturelle. Et évidemment, la discipline qui étudie ça de manière spécifique, c'est ce qu'on appelle en biologie la génétique des populations. Alors le mot important, c'est population. Maintenant, on étudie la distribution des gènes dans des populations. Donc effectivement, on va essayer de comprendre la manière dont cette distribution fluctue, et ces fluctuations, elles sont quantitatives, elles sont continues, elles sont donc compatibles avec la sélection naturelle. Les premiers généticiens n'étudiaient pas des populations. Ils étudiaient des individus, quelques individus, au travers de générations. Donc ils travaillaient sur des échantillons très faibles. Les biologistes français, comme en fait c'était des physiologistes, ils étudiaient des organismes individuels. Et donc en fait ils ne comprenaient pas que l'évolution, quand bien même évidemment elle a comme conséquence la modification des individus, en fait elle a lieu à l'échelle des populations et pas des individus. Un être seul, imaginons un organisme seul, il ne peut pas évoluer. C'est une population d'organismes qui évoluent. Alors, cette synthèse entre Mendel et Darwin, donc entre la génétique, la manière génétique de concevoir l'hérédité et l'hypothèse de sélection naturelle, elle va commencer à être acceptée par des évolutionnistes à la fin des années 1930. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la théorie synthétique de l'évolution, synthétique dans le sens où elle fait la synthèse entre la manière mendélienne de comprendre la génétique et la manière darwinienne de comprendre le mécanisme de l'évolution des espèces, c'est-à-dire la sélection naturelle. Alors, le personnage... Donc Fisher, il va montrer que la génétique est compatible avec la sélection naturelle, mais le personnage qui va vraiment opérer cette synthèse et qui va convaincre ses compatriotes... Enfin, c'est non, plus que ses compatriotes, qui va convaincre la communauté internationale, sauf la communauté française, c'est Théodosius Dobzhansky. C'est un biologiste d'origine russe et puis qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis parce qu'il a fui le stalinisme. Enfin, d'abord le communisme, puis ensuite le stalinisme. Et en 1937, il publie le premier livre qui montre que cette synthèse est possible et qu'elle est explicative, qu'elle permet d'expliquer la plupart des problèmes que se pose un biologiste. Et ce livre, c'est Genetics and the Origin of Species. Alors, j'en profite pour faire un peu de publicité, puisque Dobzhansky est la personne qui sera responsable de la célèbre maxime « Rien en biologie n'a de sens, sinon à la lumière de l'évolution ». Et cette maxime, c'est le thème du colloque de la chaise vie organisé le jeudi 13 mars, ici même. Donc si vous voulez avoir plus d'explications sur ça, ben, vous viendrez le jeudi 13 mars. La chaise vie vous accueille avec plaisir. Donc à partir de 1937, les plus grands évolutionnistes mondiaux comprennent que finalement cette synthèse, non seulement elle est possible, mais en plus elle est extrêmement féconde. Et donc en l'espace d'une dizaine d'années, tout le monde va être convaincu que maintenant c'est ça la manière d'expliquer les mécanismes de l'évolution. Alors, des gens comme Ernst Mayr, qui est très connu, vont emboîter le pas à Dobzhansky. Ernst Mayr, pour les gens qui ne connaîtraient pas, bon, c'est pas grave, hein, on a le droit de vivre sans connaître Ernst Mayr, pas de problème. C'est un biologiste absolument incroyable parce qu'il a vécu plus de 100 ans. Il a commencé à travailler sur les théories de l'évolution dans les années 1920. Il est mort il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, il a publié un article qui s'appelle, c'est un article publié en anglais, donc en français ça donne à peu près ça, 80 ans à regarder évoluer la théorie de l'évolution. Donc évidemment, c'est un cas totalement incroyable dans l'histoire des sciences, puisqu'il est lui-même l'objet d'une histoire que d'ailleurs lui-même a écrit. À la fin des années 80, il écrit une histoire de la biologie dans laquelle il s'autocite, mais il s'autocite à la troisième personne, donc c'est extrêmement rigolo à lire. Puisque effectivement, quand il écrit cette histoire dans les années 80, ce qu'il disait dans les années 20, c'était pas forcément valable. Alors, 2 points encore, avant d'en venir à une mini-bibliographie. La sélection naturelle, c'est un principe donc très compliqué, je ne suis pas du tout rentré dans les détails. Contre-intuitif, pourquoi ? Parce qu'il remet en cause la manière classique de voir ce qu'on appelle la causalité dans la nature. La manière classique de voir la causalité dans la nature, c'est la métaphore de la boule de billard, la queue qui tape la boule de billard, la boule de billard qui avance. Ça, c'est la façon dont on conçoit quasiment intuitivement ce que c'est que la causalité. Et en fait, la sélection naturelle, elle prend toutes ces idées-là à rebrousse-poil. Et c'est ça que notamment les biologistes français n'ont pas du tout compris. Parce que la sélection naturelle, c'est un processus qu'on pourrait qualifier d'émergent qui ne prend sens qu'à l'échelle de la population. Et finalement, la manière dont un organisme individuel va présenter certains caractères ou pas, c'est pas tellement intéressant pour expliquer l'évolution. Ce qui compte, c'est qu'au sein d'une population, il y ait des différences entre les individus et que ces différences soient sélectionnées au cours du temps. Donc ça, c'est un domaine particulièrement actif de la philosophie de la biologie actuellement. Donc la philosophie de la biologie, c'est une discipline très sérieuse qui se pose des questions sur la manière dont sont construites les théories biologiques. Et la capacité de survivre et de se reproduire d'un organisme individuel dans un milieu donné, c'est ce qu'on appelle la fitness. Et donc il y a plein de gens très sérieux qui essayent de comprendre finalement ce que c'est que cette fitness. Est-ce que c'est une cause comme l'entendent les physiciens ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Et en fait, on se rend bien compte que la théorie de la sélection naturelle, elle prend l'idée de cause dans un sens qui n'est pas celui des physiciens. Et c'est notamment pour ça qu'il y a eu cette crise dans la compréhension des mécanismes de l'évolution. C'est parce qu'en fait, ça heurtait complètement la manière dont on espérait comprendre la science. Finalement, un scientifique, au XIXe siècle, son objectif, c'est de prendre un phénomène, de le rentrer dans un laboratoire et d'en étudier le déterminisme, c'est-à-dire les paramètres qui vont présider à la naissance ou à la modification de ce phénomène. Or, c'est pas du tout comme ça qu'on peut étudier l'évolution des espèces, parce qu'elle se déroule essentiellement au niveau des populations, et parce qu'elle renvoie à un autre sens du mot « cause ». Bon, ça, c'est de nouveau très compliqué, donc je suggère juste l'idée. Après, s'il y a des gens intéressés, on pourra en reparler. Alors, en guise de petite bibliographie, donc juste 4 ouvrages, il y en a 3 qui m'ont énormément marqué. Alors, je commence par celui qui ne m'a pas trop marqué, c'est le premier. Donc, c'est un ouvrage écrit en anglais, non traduit en français. Alors, c'est un ouvrage qui parle de cette période d'éclipse du darwinisme, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné vu d'autres manières que la manière darwinienne pour expliquer l'évolution des espèces. C'est un ouvrage très synthétique, très pédagogique. Donc, évidemment, il faut le lire en anglais, ça c'est le problème, mais il n'est pas très long. Il est écrit dans un anglais accessible facilement et il permet d'éclairer certains points de cette période. Mais disons que c'est un ouvrage surtout factuel. Vous n'allez pas être renversé quand vous allez lire cet ouvrage. Alors que les suivants, si. Alors évidemment, à condition de faire un effort, parce qu'on ne se laisse pas renverser facilement. Alors, le suivant, c'est un ouvrage de Jean Gaillon, qui est actuellement peut-être, on peut dire, le plus grand philosophe de la biologie en France, et un des plus importants dans le monde. Alors évidemment, quand on dit dans le monde, ça concerne peu de nations. Ça concerne essentiellement l'Occident pour l'instant, malheureusement. Donc c'est sa thèse qui porte sur l'hypothèse de sélection naturelle et sur la manière dont l'idée de sélection naturelle s'est transformée au cours de l'histoire depuis 1859 jusqu'à maintenant. Donc là, je crois qu'il fait à peu près 600 pages, il est très très dense. En 600 pages, vous avez l'explication complète de la façon dont ils font comprendre ce que c'est que la sélection naturelle et dont en fait la manière dont les scientifiques ont compris... Non, pardon, je reprends, et dont l'idée que s'en sont fait les scientifiques a varié au cours du temps. On n'a pas toujours compris la même chose quand on a parlé de sélection naturelle, surtout juste après Darwin. C'est un ouvrage très difficile. Par contre, il peut se lire indépendamment, selon... Enfin, on peut lire les chapitres de manière indépendante. Donc ça, ça peut être intéressant si vous vous intéressez à certains points et que vous pensez que d'autres ne sont pas intéressants pour vous. Vous pouvez aborder les chapitres de manière relativement indépendante. Alors, ensuite, un livre qui m'a marqué dans tous les sens du terme parce qu'il fait 2000 pages, donc j'ai souffert en le lisant, c'est La structure de la théorie de l'évolution. C'est le dernier livre de Stephen Jay Gould, un des plus grands évolutionnistes contemporains, élève d'Ernst Mayr, qui lui est traduit en français. Du coup, l'ouvrage a gagné 400 pages. Hein. En anglais, il fait 1500 pages. En français, il fait quasiment 2000 pages. Mais bon, au moins, il est en français. Et donc, c'est un ouvrage absolument colossal, évidemment, puisqu'il retrace à la fois l'histoire de la théorie de l'évolution et les questions actuelles qui ont trait à cette théorie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le premier chapitre était un résumé du livre. Donc, vous pouvez lire les 180 premières pages seulement. En général, c'est ce que la plupart des gens font, sauf moi, parce que je suis maso. Et ça vous donne un bon aperçu et déjà un éclairage très précis et très actuel sur les questions qui taraudent les biologistes à propos d'évolution. Et enfin, le dernier livre, extrêmement puissant, François Jacob, évidemment, on connaît au moins deux noms, puisque prix Nobel de médecine en 1965, avec Jacques Monod et André Lvoff pour ses travaux sur l'opéron, c'est-à-dire sur la manière dont les gènes sont régulés. Donc en 1970, il publie un livre absolument incroyable qui s'appelle « La logique du vivant », qui est d'une très grande densité, qui n'est pas que concentré sur l'idée d'évolution, qui traite de la biologie dans son ensemble. En fait, le sous-titre du livre, c'est une histoire de l'idée d'hérédité, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est un livre absolument éclairant sur ce que c'est que la biologie, sur quelle est l'épistémologie propre à la biologie et qu'est-ce qu'apportent les connaissances de la biologie dans la connaissance en général. Et vraiment, c'est un livre magnifique, il se trouve en poche, donc financièrement c'est une très bonne affaire, pour quelques euros on accède à une qualité de savoir absolument incroyable. Donc voilà, je ne veux pas en donner plus. Si après il y a des gens qui veulent des détails bibliographiques plus précis, ils peuvent évidemment me demander. De toute façon, à la fin de chacun de ces livres, vous avez des bibliographies très complètes. La plus complète, c'est évidemment celle que vous trouverez à la fin du livre de Gould, qui fait déjà plusieurs dizaines de pages à elle toute seule. Donc il n'y a aucun souci pour trouver, à partir de ces quatre ouvrages, de la bibliographie plus précise. Voilà, je vous remercie. Ah, j'allais oublier. Encore un tout petit peu de publicité. Donc ça, c'est un ouvrage qui va paraître bientôt. Bientôt, ça veut dire avant l'été prochain. Donc il y a des professeurs d'université, des enseignants du secondaire, etc., qui se sont réunis depuis quelques années autour de Marilyn Coquidé et Stéphane Tirard sur différents thèmes qui posent problème dans l'enseignement des sciences du vivant au collège, au lycée, à l'école primaire et même à l'université. Et évidemment, un des colloques a porté sur l'évolution. Il y a déjà deux ouvrages qui sont parus, un sur la neuroplasticité et un sur l'épidémiologie. Ça paraît chez Vuber, Adapte Vuber. Non, Vuber tout seul, je ne sais plus, enfin bref, au moins Vuber. Et bientôt va paraître celui-ci. Alors ce sont évidemment des livres beaucoup moins complets que ceux que je vous ai cités précédemment, mais plus faciles d'accès aussi, qui s'adressent prioritairement aux enseignants, qui font à peu près 150 pages. Et il y a une dizaine de thèmes, de questions. Chaque question est étudiée soit d'un point de vue historique, soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue didactique et pédagogique. Et bon, c'est un ouvrage, je pense, intéressant pour justement rentrer dans ces questions-là avant d'aborder des choses plus compliquées. Donc encore un petit peu de publicité. C'était bien. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent. C'était très intéressant comme approche de... la théorie de l'évolution, au lieu d'avoir fait quelque chose de très linéaire, d'avoir montré quelles étaient les problématiques, et aussi d'avoir parlé de la manière dont les enseignants ou dont les idées sont perçues dans les différents pays, ce qu'on veut faire aussi pour le créationnisme de la France et les États-Unis, d'avoir fait de la pub pour Jean Gaillon, qu'on connaît bien, qui est venu chez nous, qu'on réinvitera. Il avait fait une conférence dans les Amphithéâtres du Savoir sur l'eugénisme, oui. C'était très très bien, merci beaucoup, vraiment. Des questions ? Il va y en avoir, hein. C'est toujours la première qui est difficile, comme on dit.
Alors s'il y a des gens qui veulent des compléments d'information, moi je peux vous laisser mon mail, et si jamais il y a des points précis qui vous ont sur lesquels vous voulez plus de choses, bah, évidemment je me ferai une joie de vous répondre par internet, mais bon, si vous pouvez poser la question tout de suite, c'est aussi plus rapide.
Bon, il y a pas mal de productions dans les sciences de la vie quand même, en dehors des productions qui tournent autour de la théorie de l'évolution. Il y a aussi l'histoire des sciences de la vie de Pascal Duris et Gabriel Gauche et Nathan. Bon, sur la marque, on parle de la biographie, bien sûr, de Pietro Corsi, travail de Pietro Corsi. Sur Darwin, vous n'avez pas parlé, mais ça, je n'ai pas d'opinion. Le dictionnaire de l'évolution.
Ah non, c'est un ouvrage, voilà. Enfin, c'est un dictionnaire, donc voilà. Évidemment, ça ne se lit pas d'une traite, mais c'est un ouvrage qui permet des entrées intéressantes, publiées au PUF. Voilà, par contre, ça ne s'achète pas en tant que particulier.
Absolument.
Hein. Ou alors, il faut être très riche.
Absolument. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de...
Mais un CDI peut investir.
Bon, aussi, pour ce qui concerne le créationnisme, il y a pas mal de choses. Il y a la Bible contre Darwin qui vient d'être rééditée par
Dominique
Lecourt. Et puis les livres aussi de Le Pelletier. Et puis théologie particulièrement, le dominicain dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus. J'ai oublié son nom.
Je ne vois pas.
Qui vient de faire un colloque là, sur le créationnisme. Voilà, donc...
Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler du retour du créationnisme aux États-Unis actuellement, retour en force d'ailleurs, et qu'est-ce qui motive ce retour, s'il vous plaît?
Alors, en fait, ce n'est pas un retour, hein, c'est une persistance. Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître être un retour parce qu'il a été rénové. Mais disons que les Américains ont une manière extrêmement particulière de concevoir ce que c'est que la laïcité. Bon, il n'y a qu'à voir comment le président rentre en fonction. Et donc, régulièrement, en fait, les fondamentalistes essayent de reprendre un pouvoir politique en obligeant l'enseignement, qui est quand même public, à faire une place à la question religieuse. Et la théorie de l'évolution se prête particulièrement à ce genre de bataille. Donc il y a eu une première bataille dans les années 1920, c'est ce qu'on appelait le procès du singe, où là, en fait, les créationnistes voulaient simplement que la théorie de l'évolution ne soit pas enseignée. Donc ils ont perdu. Donc ensuite, à la fin des années 70, ils ont affiné leur stratégie, parce que évidemment, ils y allaient vraiment avec leurs gros sabots, donc ils ont bien compris que même aux États-Unis, c'était pas possible que ça passe. Donc après, à la fin des années 70, début des années 80, à cause de Ronald Reagan, ils se sont sentis pousser des ailes, et ils ont essayé une forme un tout petit peu plus subtile qu'ils ont appelée le créationnisme scientifique. Alors le problème, c'est que évidemment, c'est un peu plus subtil peut-être pour un fondamentaliste, mais pour une personne qui réfléchit, c'est absolument pas subtil, puisque le créationnisme ne peut pas être scientifique, puisque c'est une croyance. Donc il y a une différence fondamentale entre une croyance et un savoir, entre croire et savoir. Et en fait, ils ont essayé d'apporter des preuves empiriques de leur position. Alors le problème, c'est que ça les conduisait à remettre en cause notamment toute la physique, hein, puisque la radiochronologie qui permet de dater de manière absolue et non pas relative les fossiles ne se prête pas du tout à ce genre de passe-passe. Donc ils ont dû remettre en cause les équations de la radiochronologie, donc la physique des particules. Donc ça les a amenés dans un cul-de-sac. Donc encore une fois, ils ont perdu. Et d'ailleurs, Stephen Jay Gould a été déterminant dans cette victoire de la raison sur le fondamentalisme. Alors, comme le créationnisme scientifique, c'était pas une forme assez subtile pour espérer gagner, ben, ils ont transformé une troisième fois dans les années 90, surtout à partir de 1995, leur tentative. C'est l'intelligent design. Donc là, maintenant, ils acceptent l'idée d'évolution, à condition qu'elle soit non pas la résultante d'un processus mécaniste et matérialiste, comme peut l'être la sélection naturelle, mais à condition qu'elle soit guidée par un horloger extrinsèque à la nature. Et évidemment, cet horloger extrinsèque à la nature, c'est Dieu. Alors là où c'est un tout petit peu plus subtil que précédemment, c'est qu'en fait, ils ont compris que un certain amendement de la Constitution aux États-Unis, je ne sais plus lequel, interdit la référence à Dieu à partir du moment où l'argent est public. Donc, ils gomment toute référence explicite à Dieu dans leur discours. Mais évidemment, quand on parle d'un horloger qui dirige de loin l'évolution des espèces, ben, on ne voit pas très bien qui ça pourrait être d'autre qu'un Dieu. Donc, moi, ça me fait toujours un petit peu rigoler la manière dont on présente ça comme une forme subtile d'argumentation, etc. En fait, non, c'est subtil si on y réfléchit moins de 30 secondes, mais dès qu'on se pose un peu des questions, ça n'a rien de subtil. Ce qui est déplorable, c'est qu'ils ont énormément d'argent, que ça leur fait toujours beaucoup de publicité. Ils viennent d'ouvrir un musée de la création qui a coûté des millions de dollars certainement. Et en fait, ils ont un poids politique terrible. George Bush est clairement dans cette mouvance-là, puisqu'il s'est publiquement prononcé sur cette question. Donc, alors, au moins en France, le centralisme a ceci de bénéfique, que les programmes ne sont pas des émanations de politiques locales et donc influençables par les parents et par les lobbies locaux. Et donc le fait d'avoir des programmes nationaux préserve l'enseignement français, on espère, de ce genre de dérive. Puisque, en fait, aux États-Unis, c'est jamais une tactique d'ensemble. Hein. Ils essayent état par état de s'imposer, localité par localité. Et c'est pour ça que c'est tellement long, cette dispute. C'est parce que la réponse, elle est forcément locale aussi. Donc, c'est état par état que les lois sont abrogées ou qu'ils sont déboutés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ça n'a pas empêché l'envoi quand même dans des établissements scolaires, mais on en reparlera, d'un livre sur l'évolution, enfin sur le créationnisme.
Oui, donc un livre écrit par
un Turc. Voilà, exactement. Oui, donc d'où quelques alarmes. Mais on ne peut pas comparer en effet le créationnisme américain et le créationnisme européen. C'est pas,
disons qu'aux États-Unis, c'est surtout une émanation du protestantisme fondamentalisme. Et en Europe, ce qui est plus problématique actuellement, et bon, moi je sais que j'ai enseigné dans des banlieues où il y avait beaucoup de musulmans, donc c'est plus cette religion-là qui peut poser problème dans le cas français.
Donc la difficulté, moi je trouve actuellement, c'est de faire comprendre aux élèves et aux gens, enfin même aux gens qu'on côtoie, que nous sommes des animaux et enfin qu'on fait partie on est des êtres vivants, donc on est des animaux. Et ça passe pas, quoi. Et partant de là, comme dans les mentalités, on est des humains, on n'est pas des... Enfin, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on est des animaux. Ils n'arrivent pas à intégrer vraiment la théorie de l'évolution. Enfin, je sais pas, ils n'arrivent pas à se resituer par rapport aux autres êtres vivants sans une supériorité. Enfin, je pense qu'on aura toujours des problèmes par rapport à cette théorie de l'évolution pour la faire accepter, par rapport à cette notion de différence entre les humains et le reste des êtres vivants. Et je trouve que c'est difficile de faire comprendre ça, en fait, aux élèves, quoi. Ils trouvent toujours quelque chose, un argument. Je pense que c'est vraiment difficile de faire accepter cette théorie, quoi. Il y aura toujours...
Alors, oui.
Je sais pas quoi. Enfin, cette notion de différence, qu'on n'est pas des animaux, moi j'essaye de faire comprendre qu'on est des animaux. Après tout, bon, on a des qualités et des défauts que n'ont pas d'autres espèces, mais après tout, on est des animaux. Bah ça, et c'est dur à faire comprendre. Voilà.
Effectivement, c'est très dur à faire comprendre. Descartes lui-même, il acceptait totalement que son corps soit une machine à condition que son âme soit complètement spirituelle. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas que les élèves qui se sont fourvoyés dans cette direction. Et en fait, c'est presque un problème de logique parce que dans ce genre de problème, les gens qui pensent ça n'arrivent pas à comprendre que les catégories peuvent s'emboîter et ne sont pas mutuellement exclusives. C'est-à-dire qu'on peut avoir des caractéristiques propres, et là, c'est tout simplement les fondements de la classification phylogénétique. On peut avoir des caractéristiques propres non partagées par les autres espèces, sans pour autant s'exclure d'un groupe d'êtres vivants. Et donc c'est évidemment le cas de l'homme qui, même si évidemment ce sont des caractères quantitatifs et pas qualitatifs, qui a des capacités d'abstraction absolument considérables par rapport à n'importe quelle autre espèce, etc. Mais ce qui ne l'empêche pas d'appartenir de plein pied à la catégorie des primates. Donc y a beaucoup d'affectifs par rapport à cette question-là. Et puis il y a aussi des problèmes de raisonnement logique. On a du mal à concevoir que les catégories peuvent s'emboîter les unes dans les autres et pas être mutuellement exclusives. Et puis il y a aussi, je pense, beaucoup d'esprit polémique et de mauvaise foi de la part de certains élèves qui aiment bien toujours essayer de trouver l'exemple, qui « Ah, le prof, il est nul, il sait pas tout, regardez comment je l'ai eu. »
En fait, quand on parle d'animaux, c'est péjoratif. Même si on montre à qui que ce soit des preuves avec, au niveau génétique, etc., au niveau morphologique, on apporte les preuves, ils sont d'accord, mais au fond... Enfin, ça rentre pas, je sais pas comment l'exprimer,
mais malheureusement,
avec des preuves, c'est ancré dans les mentalités, dans les médias. c'est les humains, les animaux. Enfin, c'est toujours choquant. Et on commence un petit peu à entendre parler dans des émissions scientifiques à la radio des humains, les animaux, dans la tête au carré, des trucs comme ça. Mais ça devient rare, quoi. Enfin, c'est rare encore. Et moi, ça m'étonne toujours, quoi.
Oui,
et
puis en plus, c'est quelque chose contre lequel on est quasiment impuissant, puisque c'est des gens qui, par principe, n'acceptent pas le raisonnement, parce que sinon, ils se laisseraient mener jusqu'à la conclusion. Donc, une personne qui n'accepte pas le jeu de l'argument et du raisonnement, bah, en fait, il va en rester à ses croyances. Et une personne qui veut à tout prix croire que la Terre est plate, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il veut croire que la Terre est plate, bah, il continuera de croire que la Terre est plate. Donc, y a des pertes, oui. Il y a des gens qu'on... C'est sûr, il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre. Et en fait, c'est les limites d'un exposé rationnel d'une question qui touche à des caractéristiques humaines. Et le racisme, c'est ça aussi. Hein. Il y a des gens qui sont racistes pour des raisons psychologiques, intimes, personnelles, qui sont liées à leur moi profond. Et donc, vous aurez beau les amener par des raisonnements à des considérations autres, bah, vous n'arriverez pas à les convaincre parce que vous ne vous placez pas sur le même champ. Et les fondamentalistes religieux, c'est exactement pareil aussi, parce qu'ils n'acceptent pas l'argument, la preuve, le débat scientifique. Et donc, vous aurez beau apporter toutes les preuves que vous voulez, puisqu'ils ne se placent pas du point de vue épistémologique sur le même champ, bah, en fait, c'est un peu comme ne rien faire, finalement. Donc, je suis d'accord avec vous, je n'ai pas de réponse à apporter à cette question. Il faut persévérer, et puis, bon, s'il y en a qui restent réfractaires, bon, bah, tant pis pour eux. Tant qu'ils n'ont pas de poids politique après, bah, tant mieux pour nous.
Oui, moi c'était juste pour ce que vous pensiez de la vulgarisation, en fait, ce que j'appellerais l'ultra-vulgarisation dans les médias, en fait, la simplification de la simplification qui arrive à, justement, pour nos élèves qui ne saisissent pas vraiment le fondement concept de la théorie.
Donc pour l'évolution en particulier.
Oui, pour l'évolution, enfin bon, ça touche aussi pas mal de choses. Mais...
Bah ça dépend du média que vous considérez, parce que par exemple les articles dans la recherche sont. Totalement acceptable.
Non, mais c'est sûr, mais je parlais des médias principalement à la télé, par exemple.
À la télé.
Parce que les élèves, c'est vrai qu'ils sont souvent confrontés. Malheureusement.
À la télé, on ne parle pas tellement d'évolution, malheureusement. Alors, Yves Coppens a produit des films extrêmement critiquables sur plein de points scientifiques. Bon, ils ont le mérite d'exister et d'intéresser les gens à ces questions. La BBC a produit des films en images de synthèse sur les différentes époques qui caractérisent l'histoire de la vie, qui sont scientifiquement très bien. Alors, évidemment, le seul problème, c'est que de temps en temps, si vous avez vu ces films, on voit l'animal qui sort de son contexte et qui tout d'un coup se transforme lui-même en tant qu'individu. Donc ces films racontent l'histoire, mais ne disent rien de ce qui est compliqué, c'est-à-dire le mécanisme qui explique cette histoire. Et je ne pense pas que la sélection naturelle, comme la théorie de la relativité, soit quelque chose qui soit explicable à la télé. Donc,
je suis d'accord, mais c'est vrai que ça marque des images qu'on peut voir... sur un animal qui sort comme ça.
En fait, on voit du morphing à la télé.
Oui,
c'est extrêmement.
Et les élèves, justement, ces images qu'on n'arrive pas à enlever. Quoi.
Oui, enfin, ça, voilà, c'est tout à fait vrai.
C'était dans
voir du morphing, c'est absolument s'ancrer dans une conception qui n'est pas la conception scientifique de la manière dont les espèces évoluent. Et le morphing à la télé, c'est spectaculaire, c'est ça qu'on voit. Les super-héros, ils se transforment de cette façon-là. Les X-Men, ils subissent des mutations. Tiens, tout d'un coup, ils ont des super-pouvoirs vachement bien. Spider-Man, il se fait piquer par une araignée, hop, il récupère un peu de fil. Ça, c'est terrible pour. Donc, si c'est ça la vulgarisation dont vous parliez, évidemment. Oui, bien sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, ça peut être rigolo. Moi, je sais que je projette souvent des films aux élèves et je leur demande de m'expliquer ce qui va pas. Et ils se disent ah ouais, c'est pas comme ça. Si on mange du poulet, on ne devient pas un poulet. Ah bon ? Ça leur fait se poser plein de questions.
Merci beaucoup, Laurent. On fait notre petite pause.
Merci à vous.
Merci.
Un quart d'heure, pas plus.
Un quart d'heure, pas plus, dit Mario.
Un quart d'heure, ceux qui n'ont pas signé, signent.